Les téléspectateurs,
vous. On est ouvert les jours fériés. Bienvenue dans l'Instant M.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est toujours un moment difficile pour les amateurs de séries télé. Le début de la fin, un village français, le début de la toute dernière saison sur France 3. Alors on va retourner à Villeneuve pour les adieux. Dans ce village fictif au cœur du Jura, on a vécu l'arrivée des Allemands, l'occupation, la collaboration, la résistance, les épurations et les trahisons. Automne 45, il est temps à présent de façonner la mémoire collective, de reconstruire les mémoires, quitte à tricher un peu avec la vérité. Épisode 3 et 4 donc de la saison 7 à voir ce soir, toujours avec Audrey Fleurot et Robin Renucci. Le co-auteur producteur de cette série française unique en son genre est mon invité. Bonjour Frédéric Krivine.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être là. L'après-coup avec Bruno Denet. Bonjour Bruno.
Bonjour Dorothée.
Faire la grève ou pas, vous commenterez la position d'équilibriste de Laurence Ferrari.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Et on parle d'abord d'un chef d'État animateur de radio. Voilà qui a de quoi surprendre. Ça se passe au Venezuela, au plus fort de la crise politique et économique qui assomme son pays. Nicolas Maduro a surpris tout le monde en annonçant qu'il allait présenter tous les jours une émission consacrée à la salsa sur la radio du palais présidentiel. La première émission est prévue aujourd'hui, 1er novembre. Voilà, en France, on débat sur un dirigeant qui passe trop de temps à discuter avec des journalistes. Eh bien, à Caracas, le président est à l'antenne tous les jours pendant 2 heures. À l'Instant M, nous, on verrait bien François Hollande présenter, la météo marine. Bruno Denet, vous avez regardé C'est l'hebdo sur France 5 samedi soir et vous y avez vu Laurence Ferrari expliquer pourquoi elle refusait de faire grève à iTélé. Et ça vous a fait rigoler, mais pas seulement.
Oui, Dorothée, pas que. En effet, alors je vous raconte d'abord ce que j'ai vu. Hein. Un journaliste a donc demandé à Laurence Ferrari pour quelle raison elle ne participait pas à la grève qui affecte iTélé depuis maintenant 16 jours. Et elle a répondu ceci.
Moi, à titre personnel, j'estime que je ne peux pas faire grève, voilà.
Voilà, Laurence Ferrari estime qu'à titre personnel, elle ne peut pas faire grève. On était donc très curieux de comprendre pourquoi, quels étaient ses motifs si personnels qui lui interdisent de prendre part à cette grève, une conviction chevillée au corps par exemple, que le respect de la présomption d'innocence doit primer sur toute autre chose. Eh ben pas du tout. Si Laurence Ferrari juge qu'elle ne peut pas faire grève, c'est pour cette raison-là.
J'estime que le droit d'information est un droit que je ne me vois pas entravé, voilà.
Voilà, en d'autres termes, si Laurence Ferrari a dit non à la grève, c'est pour un motif quasi sacerdotal, puisque c'est pour que nous, public, puissions continuer à être informés. Alors, on rassure Laurence Ferrari, hein, grâce à l'abondance des médias, des chaînes infos et des journaux en tout genre,
ça va bien se passer.
Si elle cause pas dans le poste pendant 3 semaines, des infos, on en aura quand même. C'est pour ça que je vous disais que c'est rigolo, Dorothée, puisque son explication est à peu près aussi crédible que celle d'un ouvrier de chez Peugeot qui viendrait vous dire que s'il refuse de faire grève, c'est pour que les automobilistes puissent continuer de rouler. Bon, seulement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a bien ri devant cette justification un brin fumeuse, eh ben on n'a pas dit grand-chose. Car que nous dit finalement Laurence Ferrari et pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a peur. Peur du taulier d'iTélé, Vincent Bolloré, qui est aussi celui de tout le groupe Canal+, qui possède la chaîne C8 sur laquelle c'est pas de bol. Elle présente également une émission dominicale. Bref, elle nous dit qu'elle a peur de se faire virer, car elle a peur de l'immense précarité avec laquelle les journalistes, même les vedettes, doivent désormais composer. Alors vous allez me dire, ok, mais les autres, ils ont peur eux aussi, et puis la solidarité, ça existe quand même. Eh ben les autres, ils sont moins exposés, moins visibles. Et puis la solidarité, Laurence Ferrari en fait preuve, mais à sa manière, d'une façon presque détachée. Écoutez, à ce sujet, comment elle l'a exprimé.
J'ai déjà dit toute ma solidarité à mes confrères de la rédaction. Mmh. Je travaille depuis 4 ans au quotidien avec ces journalistes. C'est une des plus belles rédactions de France, à mon sens.
Voilà, elle dit ces journalistes. Elle s'exprime presque comme une observatrice extérieure, comme si elle ne faisait pas tout à fait partie de la famille, probablement. Parce qu'elle sait qu'à la télévision, la notion de famille est devenue extrêmement fragile. En somme, Laurence Ferrari a mis le doigt un peu, malgré elle, sur tout ce que la grève à iTélé cristallise. C'est-à-dire sur le malaise de toute une profession qui a vu s'installer partout des dirigeants qui ne sont pas de leur famille. Des industriels souvent cyniques qui, au sommet des médias, les ont remplacés. Des champions du marketing qui, à la direction des programmes, vendent non plus du contenu mais des parts de marché et qui n'hésitent pas, pour sauver leur peau, à sacrifier celle de journalistes qui font désormais partie d'une famille en perpétuelle recomposition. Une famille dans laquelle le chacun pour soi est devenu la valeur cardinale. Bref, une famille qui fout un peu les jetons. Et pas seulement à Laurence Ferrari.
Et quand on a peur de se faire virer, précisément, on ne peut pas le dire devant une caméra. La position était franchement casse-gueule. Merci beaucoup, Bruno Donnet.
L'instant M avec Dorothée Barba.
Alors, si vous avez raté les deux premiers épisodes, pas de panique, le replay fonctionne jusqu'à aujourd'hui sur le site de France Télévisions. Les jours fériés, ça sert aussi à regarder des séries. Et ce soir, vous regarderez les épisodes 3 et 4 sur France 3. Un village français, ultime saison, c'est la fin d'une histoire entamée il y a 10 ans. Frédéric Krivine, vous êtes le chef d'orchestre de ce village français, co-auteur, producteur des 7 saisons. C'est assez rare, une telle longévité pour une série française. Est-ce que vous auriez parié là-dessus à l'époque ?
Oui, j'aurais parié parce que je suis un optimiste de nature. On est 3 chefs d'orchestre hein, quand même. Enfin, Emmanuel Dossé, le producteur, et là Jean-Philippe Amard qui réalise ces épisodes. Et puis il y avait Philippe Tribois qui en a réalisé beaucoup avant.
Une série télé qui raconte l'histoire d'un village du Jura pendant l'occupation. Franchement, il y a 10 ans, vous auriez dit ça va cartonner ?
On ne sait jamais si ça va cartonner. D'ailleurs, quand on nous demande parfois pourquoi ça marche, la seule réponse, c'est si on savait pourquoi ça marche, on reproduirait ces recettes sur la série suivante. Il faut être optimiste, il faut croire à ce qu'on fait, et bon, on y a cru, et France 3 y a cru aussi.
Bon alors, ça marche certes, vous avez sans doute été un peu déçu par les chiffres d'audience de la semaine dernière, hein, les deux premiers épisodes de cette saison 7, 2,6 millions de téléspectateurs contre presque 4 millions pour La France a un incroyable talent.
Oui, bah je crois pas que je pensais avant que c'était moi l'incroyable talent. Je vais dire que ce qui compte surtout, c'est les parts de marché. On fait en gros la même part de marché que la saison dernière. Bon, après, en général, une série feuilletonnante au bout de 7 ans ou 8 ans fait moins d'audience que la première année.
Et c'est dommage, je le dis à titre personnel, parce qu'elle se bonifie, à mon avis, avec le temps, cette série.
À titre personnel, comme Laurent Ferrari. Eh ben, merci. Disons que, au bout d'un certain temps, il est normal que les aficionados de la série continuent de nous suivre, mais techniquement, vous perdez toujours des aficionados. Et sur une saison 7, vous n'avez pas tellement de nouveaux spectateurs qui viennent, parce que, par rapport à ce que vous disiez au début, si vous avez raté les 60 premiers épisodes, là, il n'y a pas de replay, vous êtes un peu dans la merde, et nous aussi, au niveau de l'audience.
Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres séries à regarder par ailleurs.
Et par ailleurs, l'offre est importante.
Le sujet apparent de cette dernière saison, c'est l'après-guerre, hein, Frédéric Krivine, mais il est en fait surtout question de la manière dont se sont forgées les mémoires, la façon dont on s'arrange finalement à l'automne 45 avec la réalité des 5 dernières années. Il était là l'enjeu du scénario ?
Sur la saison 7, c'est vraiment effectivement c'est la saison de la construction des mémoires, à la fois les mémoires de l'occupation, expliquer pourquoi justement il y a des mémoires contradictoires ou en tout cas qui ne se ressemblent pas tellement. C'est aussi l'occasion de montrer que chaque individu est un historien de sa propre vie privée. Je dis souvent que quand je raconte mon premier mariage à ma deuxième femme, je fais l'histoire de mon premier mariage et la politique de mon deuxième. C'est intéressant de montrer que à la fois il y a des mémoires de l'occupation en construction, il y a aussi les mémoires privées. Tous les personnages doivent s'expliquer les uns les autres. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu as envie de revenir? Qu'est-ce que tu as foutu pendant 4 ans?
D'ailleurs, le mot vérité est omniprésent dans les dialogues.
Oui, ça c'est courant quand les gens mentent. Hein. C'est pour ça que les avocats sont spécialistes de la vérité, par exemple.
Alors, l'heure est à la reconstruction et au procès, bien sûr, notamment le procès de l'ancien maire incarné par l'épatant Robin Renucci. La question est celle de sa responsabilité dans la mort des enfants juifs de l'école de Villeneuve.
Vous ne vous souvenez pas que je vous ai demandé de nous faire sortir de là-bas ?
Si. Vous m'avez proposé de l'argent et j'ai refusé.
Résultat, ma femme et mes enfants ont été gazés le jour de leur arrivée au camp. Et vous dites que vous n'êtes pour rien !
Je prends les jurés à témoin. Aurait-il été juste de laisser partir la famille Golmoutz parce qu'ils avaient de l'argent et pas les autres ?
Donc, aurait-ce été moral ?
Résultat, vous n'avez laissé partir personne. Et tous ceux de l'école sont morts. 140 hommes, femmes et enfants. Excepté moi, les 4 ou 5 autres, elle est belle, votre morale.
Mais je ne savais pas qu'ils allaient à la mort.
C'est pas vrai ! En disant cela, vous les tuez une seconde fois !
Je ne le savais pas !
C'est pas vrai.
Mais allons.
La morale, d'ailleurs. Autre mot très présent dans les dialogues. Chacun essaye de s'arranger avec ce qu'il pense être le bien, Frédéric Krivine.
C'est une période 45 où, effectivement, les procès, d'une part, et d'autre part, ce qui venait d'être vécu, le fait que d'un seul coup, la chape de plomb, l'occupation s'en va. C'est une période dans laquelle beaucoup de gens ont dû certainement se poser ces questions quand on lit des journaux intimes. Parfois pas publiés ou publiés bien après. On voit bien quand même que cette question se pose. J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'aurais dû faire? Bon, mais cette question de la morale est toujours très liée à la question de l'occupation, même encore aujourd'hui. Quand des hommes politiques aujourd'hui viennent exhiber des lambeaux, je dirais, ou des copeaux de l'occupation ou de la résistance, etc., c'est toujours sur une question du bien et du mal aujourd'hui.
Alors, vous parlez de journaux intimes, ce qui est intéressant, ce qui est passionnant dans cette série, c'est la façon dont s'imbriquent les vies privées avec la grande histoire, les histoires de couple notamment, qui ont une influence directe sur les événements. Comment se passe le travail du scénariste? Est-ce qu'on commence par l'événement historique ou par l'histoire de couple, justement?
Alors, dans Un village français, on commence plutôt par définir un cadre historique avec Jean-Pierre Azéma, qui est l'historien consultant de la série depuis le départ.
Et la caution vraiment... historique de cette série.
C'est plus que la caution, c'est les cautions, c'est assez facile à trouver.
C'est pour éviter les faux pas, en tout cas.
Bon, c'est plus que ça, il a vraiment beaucoup contribué à cette série. Et donc, on commence par définir une période historique, et après, on travaille ce qu'on appelle dans notre jargon le drama, donc les histoires, les rebondissements, qui couche avec qui meurt, qui naît. D'abord dans une première phase en atelier d'écriture, donc avec une équipe de 5-6 auteurs, et puis dans une deuxième phase j'écris les dialogues seuls.
Alors il y a beaucoup de flashbacks dans cette saison 7, des scènes très oniriques aussi, le temps se fige, il y a des disparus qui viennent hanter les vivants. La réalisation signée Jean-Pierre Amar est vraiment très différente Jean-Philippe Amar, pardon, très différente des 6 saisons précédentes. Elle est très audacieuse, cette mise en scène. Était-ce une volonté de chambouler les codes pour donner peut-être une tonalité d'adieu à cette saison, puisque c'est la fin.
Jean-Philippe, il réalise l'épisode depuis la saison 5, donc il a déjà...
Mais là, il a cassé les codes, quand même.
Oui, enfin, c'est-à-dire, pourquoi des flashbacks? Il était d'ailleurs là dans l'atelier d'écriture, et c'est important, quand on a la chance de pouvoir voir le réalisateur très tôt dans l'atelier d'écriture. Et du coup, dans le développement, on s'est dit qu'une saison sur la mémoire pouvait se traduire filmiquement par le flashback, qui est une des traductions, disons, de la mémoire en termes de cinéma. Enfin, une possibilité, en tout cas, de... C'est pour ça que les flashbacks sont arrivés. Après, la question, on n'allait pas faire des flashbacks, on n'allait pas reprendre du stock de montrer au public des choses déjà tournées, enfin très peu.
Ça ferait faire des économies, remarquez.
Voilà, mais on l'a fait très peu uniquement parce que c'est la mémoire de la série aussi. Oui. Mais sinon, Jean-Philippe a beaucoup travaillé sur comment passer du présent, filmiquement, du présent au passé, comment faire cette transition. D'une façon intéressante, et bon, il a trouvé quand même beaucoup de solutions.
Alors là aussi, changer la forme, c'est prendre le risque de perturber un peu les fidèles de la série.
Ouais, honnêtement, là, on est d'abord en saison 7 sur des risques, on va dire, qui sont modérés. Et par ailleurs, je crois que, au contraire, donner une mémoire intime au public qui suit la série, pas forcément depuis le début, mais en tout cas qui aime cette série, c'est plutôt donner du bonus. C'est plutôt donner des espèces de moments... c'est des cadeaux pour ceux qui aiment la série, qui aiment les personnages, de voir du passé qu'ils ignoraient, des choses comme ça.
Avec notamment Audrey Fleurot, le personnage d'Hortense, qui discute avec elle-même quand elle était enfant.
Par exemple.
Alors on est à la fin 45, il ne faut surtout pas parler de collaboration. Évidemment, tout le monde a été résistant.
Non, les Boches n'ont pas eu l'Alsace et la Lorraine. La liberté, la dignité de la France, son indépendance et finalement sa victoire ont été gagnées par des hommes exceptionnels. Le général de Gaulle d'abord, que j'ai eu l'honneur de rejoindre à Londres dès novembre 40, alors que nous n'étions que quelques dizaines. La résistance et puis le maquis.
On va bien sûr rien dévoiler de l'intrigue de cette saison 7, mais tout l'intérêt, c'est la réflexion sur les façons, encore une fois, dont on peut tordre le réel pour qu'il soit plus reluisant, reconstruire la mémoire. Et voilà ce que vous faites dire à un personnage, une réplique vraiment savoureuse. Impossible de retranscrire l'intégralité du réel à ceux qui ne l'ont pas vécu. Face à cette impossibilité, les mauvais font du journalisme, les bons de l'histoire et les génies font du théâtre. On prend le réel, on en fait une histoire et on laisse le réel dans son obscure médiocrité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling, Frédéric Krivine.
Ah, je fais donc du storytelling sans le savoir, mais je savais que ce passage plairait beaucoup aux journalistes.
On l'a très bien pris, en effet.
Bah oui, enfin.
Ça fait écho, en tout cas. Je parle de storytelling parce que ça fait écho à l'actualité, peut-être, de 2016.
À l'actualité, vous voulez dire récente, la représentation ou le livre que vous avez évoqué.
Cette obsession à raconter des histoires, par exemple.
Bon, le public consomme des histoires partout, toujours. C'est pour ça que it's why I am in business. Mm. C'est vrai que la narration et des histoires construites, on retrouve beaucoup plus d'histoires construites dans les magazines et dans la presse que quand j'ai commencé ma carrière ou quand j'étais à l'école de journalisme au CFJ dans les années 80, où la distinction entre la fiction et, on va dire, l'actualité ou la réalité paraissait beaucoup plus nette. Ça, c'est vrai qu'il y a une évolution de ce côté-là. La scénarisation, disons, des représentations du réel est beaucoup plus forte aujourd'hui, oui, c'est vrai.
D'autres échos peut-être à l'actualité dans cette saison 7 du Village français ?
Ah bah là, chacun pourra éventuellement voir. Disons qu'on est sur une grande espérance portée par l'arrivée d'un gouvernement qui était quand même plutôt à gauche. Enfin, de personnalités issues de la résistance qui étaient plutôt à gauche. C'était très porteur d'espoir. Cet espoir a été incontestablement assez rapidement déçu.
Trahison, désillusion.
Trahison. Peut-être pas quand même. Désillusion. Certainement. Des résistants se sont battus pendant des années. Ont cru à pas un Eldorado, mais ils ont cru à une France très différente et ils ont pensé qu'ils auraient ça en 45. Mais faut pas, non, c'est pas de la trahison. Il y a aussi un principe du réel. La guerre est finie, les Allemands sont partis, la vie reprend, les gens mangent, baisent, boivent, pensent à leurs vacances. Enfin, je veux dire, la vie reprend.
C'est bien pour ça qu'il faut que la série s'arrête, d'ailleurs.
Puisque la vie reprend. Aussi pour ça que la série va s'arrêter.
Alors, ce qui me séduit beaucoup dans cette série, c'est qu'ils sont tous un peu cinglés, si vous me passez l'expression. Hortense, en première ligne, un personnage incarné par Audrey Fleurot. Mais pas seulement. Les personnages se battent avec leur passé. Aucun n'est totalement détestable ou complètement attachant. Lequel vous a donné le plus de fil à retordre ? Quel personnage ?
De fil à retordre ?
Cette complexité
psychologique. En atelier d'écriture, on passe avec les auteurs, avec les jeunes scénaristes, enfin jeunes ou moins jeunes scénaristes, on passe quand même beaucoup de temps justement à tordre des fils, à les détordre. Mais c'est un peu là pour le coup sur un peu sur tous. Je dirais, il n'y a pas vraiment un personnage qui pose plus de problèmes. Il y a des situations qui posent plus de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes d'adaptation.
Mais dans cet équilibre entre le méchant, pas trop méchant, et le gentil, un petit peu limite.
Non, moi, comme consommateur, ce qui me pose des problèmes, c'est quand justement il y a du trop de blanc ou trop de noir et que je m'ennuie ou que j'y crois pas ou que j'adhère pas. Alors, si il peut y avoir sur un nazi, jusqu'où et comment on rend empathique un nazi ou un flic français tortionnaire comme Marchetti, ça pose pas d'énormes problèmes. En tout cas, on y pense.
Alors, ça fait 10 ans que le village de Villeneuve raconte l'histoire de France à hauteur d'homme, et ça interroge quand même sur la place de l'histoire à la télé. Est-ce que les choses ont changé en 10 ans, à votre avis, Frédéric Krivine ?
Il me semble qu'il y a peut-être un peu plus de documentaires de grande qualité historique. Et alors bon, il y a d'abord l'abondance de chaînes qui a évidemment fait arriver de nouveaux canaux, mais même sur les grandes chaînes, notamment sur France Télévisions. Je dirais, il y en avait déjà, il y en a encore plus. Il me semble que l'offre de documentaires historiques est quand même a augmenté en qualité et en quantité.
Pour le documentaire, c'est mieux. Pour la fiction, c'est toujours
pour la fiction,
le
l'historique coûte très cher, coûte toujours 20, en moyenne 20% plus cher, et l'organisation des chaînes actuelles est plutôt d'essayer en tout cas de réduire les coûts de production. Donc l'historique, on peut trouver des solutions toujours pour faire des séries historiques, je dirais, pour pas trop cher, mais c'est pas une évidence en termes économiques.
Un mot, tenez, sur Patrick Buisson, patron de la chaîne Histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric Krivine ?
De me cacher dans un taillis.
Prendre le maquis.
Voilà, prendre le maquis.
Saison 7, vraiment remarquable pour commencer les adieux avec le Village français, 1945, l'épilogue, 2 épisodes ce soir, 2 autres mardi prochain. Et le point final, les 6 derniers épisodes, ce sera d'ici quelques mois, ils ne sont pas encore tournés je crois.
Ils sont en fin d'écriture.
Merci beaucoup Frédéric Krivine d'être passé nous voir, très belle journée à vous. Et bonjour Thomas Chauvineau.
Salut Dorothée Barba.
Grand bien vous fasse, quel thème aujourd'hui ?
Les robots, l'intelligence artificielle, faut-il les aimer, les craindre ? Sommes-nous déjà dans une 4e révolution industrielle qu'on appelle robolution ? Toutes ces questions donc dans Grand bien vous fasse, avec vos points de vue, vos questions, vos réactions aussi sur Twitter, hashtag Grand bien vous fasse, Grand bien vous fasse @radiofrance.com et le classique standard 01 45 24 7000.
Avec une voix de robot, et ce sera juste après les infos.